2. Essai sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand par Henri Chrétien en 1867. Chapitre 2. Étude de l'homme considéré comme individu et des fins dernières les plus élevées de son existence. Le vrai but de l'homme, non pas celui que le penchant variable de chacun, mais celui que la raison éternellement immuable lui assigne, c'est le développement le plus large et le mieux proportionné de ses forces, afin qu'elles forment un ensemble. Toutefois, l'extension des forces humaines exige encore une autre condition, qui se relie étroitement à la liberté, la diversité des situations. L'homme, même le plus libre, le plus indépendant, quand il est placé dans un milieu uniforme, progresse moins. Il est vrai que cette diversité est d'une part une conséquence de la liberté, et d'autre part, il existe aussi une forme de répression qui, loin d'enchaîner l'homme, donne aux objets qui l'entourent une forme quelconque. De sorte que ces deux choses n'en sont pour ainsi dire qu'une seule. Il est plus approprié cependant, pour la clarté des idées, de bien les distinguer l'une de l'autre. Chaque homme ne peut agir en une fois qu'avec une seule et même force, ou plutôt son être ne se livre tout entier qu'à une action donnée à la fois. Ainsi l'homme paraît-il créé pour la spécialité exclusive, puisqu'il affaiblit son énergie dès qu'il l'étend à plusieurs objets. Mais il échappe à cette spécialisation étroite quand il travaille à réunir ses forces isolées, souvent exercées isolément, à faire agir, dans chaque période de sa vie, l'étincelle qui est près de s'éteindre tout comme celle qui ne brillera qu'ultérieurement, et à multiplier en les réunissant ses forces, au lieu de multiplier les objets sur lesquels il agit. Ce que produit ainsi l'union du passé et de l'avenir avec le présent résulte encore, dans la société, de l'union avec nos semblables. Car même à travers toutes les périodes de la vie, chaque homme n'atteint cependant qu'une seule des perfections qui forment pour ainsi dire le caractère de tout le genre humain. Par les liens qui naissent des qualités essentielles des êtres, les uns doivent s'approprier les richesses des autres. Un tel lien, favorable au progrès du caractère, dont l'expérience nous montre l'existence chez tous les peuples, même les plus incultes, c'est, par exemple, l'union des deux sexes. Or, si, dans ce cas, la diversité aussi, bien que le désir de l'union, se manifeste d'une façon plus énergique, ni la première ni le second ne sont moins forts. Ils sont seulement moins apparents, quoiqu'ils agissent d'autant plus puissamment, même sans égard à cette diversité, et entre personnes du même sexe. Ces idées, poursuivies plus loin et développées plus exactement, conduiraient peut-être à une plus juste explication du phénomène des liens, une explication utilisée dans l'Antiquité, surtout chez les Grecs, par le législateur lui-même, à savoir ces liaisons que l'on a souvent traitées, soit du nom trop noble d'amour ordinaire, soit du nom toujours faux de simple amitié. L'utilité des liens de ce genre pour le progrès de l'homme est toujours fondée sur le degré auquel l'indépendance que garde chacune des parties se maintient en même temps que l'intimité de leur union. Car si sans cette intimité, l'un ne peut pas suffisamment comprendre l'autre, l'indépendance est nécessaire pour faire que celui qui comprend puisse intégrer dans son propre être ce qu'il a compris. Toutefois, ces deux conditions exigent la force des individus et une différence pas trop grande, afin que l'un soit capable de comprendre l'autre. Et pas trop petite, afin que l'un puisse admirer et désirer pour soi-même ce que l'autre possède. Cette énergie et cette différence variée s'unissent dans l'originalité. Ce dont dépend en dernière analyse toute la grandeur de l'homme, ce vers quoi l'individu doit toujours tendre, et ce que celui qui veut agir sur les hommes ne doit jamais perdre de vue, c'est la particularité de la force et de l'éducation. Autant cette propriété individuelle, ce caractère propre est le produit de la liberté de l'action et de la diversité des agents, autant celle-ci les crée à son tour. La nature inanimée elle-même, dont la marche est toujours régulière et soumise à des lois éternellement immuables, paraît cependant avoir plus d'originalité aux yeux de l'homme qui s'est formé lui-même. Il se projette sur elle, pour ainsi parler, et il est vrai de dire, dans le sens le plus élevé, que chacun aperçoit l'abondance et la beauté qui l'entourent, suivant qu'il garde l'une et l'autre dans son sein. Mais combien plus la conséquence doit-elle ressembler à la cause, quand l'homme ne se borne plus à sentir et à percevoir des impressions extérieures, mais quand il devient lui-même actif. Si l'on cherche à analyser ces idées avec plus d'exactitude, en les appliquant plus immédiatement à l'individu, tout se réduit ici à la forme et à la matière. La forme la plus pure, avec la plus délicate enveloppe, nous la nommons idée. La matière la moins pourvue de forme, nous la nommons perception, sensible. La forme naît de la combinaison des matières. Plus la matière est abondante et variée, plus la forme est sublime. Un enfant divin ne peut être le fruit que de parents immortels. La forme redevient pour ainsi dire la matière d'une forme plus belle encore. Ainsi la fleur se change en fruit, et ce fruit lui-même fournit la semence d'une nouvelle tige qui se couvrira de fleurs. Plus la variété augmente avec la délicatesse de la matière, plus grande est la force, car plus intime est la liaison. La forme paraît pour ainsi dire se fondre dans la matière et la matière dans la forme. Ou bien, pour parler sans figure, plus les sentiments de l'homme contiennent d'idées et plus ces idées contiennent de sentiments, plus sa supériorité devient sans égale. De cet accouplement éternel de la forme et de la matière, de la diversité et de l'unité dépend la fusion des deux natures réunies dans l'homme, et de cette fusion dépend sa grandeur. Mais la force de cet accouplement dépend de la force de ceux qui s'unissent. Le plus beau moment dans la vie de l'homme est le moment de la fleur 4 de la fleur, de la maturité, Nouveau Muséum Allemand, 1791, 22, 23 juin, le fruit de forme moins gracieuse, simple, fait deviner la beauté de la fleur, qui s'épanouira à travers lui. Et tout se précipite vers la floraison. L'objet qui naît immédiatement du germe est encore bien éloigné de la forme charmante de la fleur. La tige grosse et lourde, les feuilles larges, pendant chacune de leur côté, ont encore besoin d'une forme plus achevée. Celle-ci augmente graduellement lorsque le regard remonte la tige. Des feuilles plus tendres se montrent comme languissantes de s'unir. Elles se resserrent de plus en plus étroitement, jusqu'à ce que le calice paraisse donner satisfaction au désir 5 Goethe, des métamorphoses des plantes. Cependant la race végétale n'est pas favorisée du sort. La fleur tombe et le fruit reproduit encore la tige, qui, d'abord tout aussi informe, se parfait également. Quand la fleur se flétrit chez l'homme, elle fait seulement place au fruit qui est plus beau. Et l'infini éternellement insondable voile d'abord à nos yeux le miracle du fruit le plus magnifique. Or, ce que l'homme reçoit du dehors n'est que la semence. Si belle qu'elle soit en elle-même, c'est l'énergie de son activité qui doit la rendre féconde. Mais sa bienfaisante influence sur l'homme existe toujours en proportion de ce qu'elle est elle-même vigoureuse et originale. Pour moi, l'idéal le plus élevé de la coexistence des êtres humains serait celui où chacun se développerait par lui-même et pour lui-même. La nature, physique et morale, rapprocherait quand même ces hommes les uns des autres, et, de même que les luttes de la guerre sont plus glorieuses que celles du cirque, de même que les combats des citoyens irrités sont plus honorables que ceux des mercenaires qu'on pousse, de même, les luttes entre les forces de tels hommes prouveraient et produiraient en même temps la suprême énergie. N'est-ce pas là ce qui nous attache si vivement à l'Antiquité grecque et romaine? Et ce qui attache tous les âges à une autre époque éloignée, révolue? N'est-ce pas principalement parce que les hommes, dans ces temps, avaient à soutenir de plus rudes combats contre le sort et contre leurs semblables? parce que la plus grande force et originalité s'y rencontraient et créaient de nouvelles formes admirables. Chaque âge qui suit doit être en dessous de ceux qui l'ont précédé en termes de variété. Et avec quelle rapidité cette décadence ne s'augmentera-t-elle pas dans l'avenir? Il est en dessous pour la variété de la nature, les immenses forêts sont défrichées, les marais desséchés, etc. Pour la variété de l'homme, elle se détruit par le progrès de communication et d'union dans les œuvres humaines. Et cela par les deux raisons indiquées plus haut 6. Cette observation a été faite une seule fois par Rousseau dans les Mille. C'est là une des principales causes qui rend tellement plus rare l'idée du nouveau, de l'insolite, de l'étonnant, qui transforme la stupéfaction et l'effroi presque en déshonneur, et qui ne requiert que bien moins fréquemment la découverte de ressources nouvelles, et jusqu'ici inconnues, tout comme les seules résolutions subites, non préparées et urgentes. Car d'une part, la pression des faits extérieurs sur l'homme est moins considérable, parce que l'homme est muni de plus d'instruments pour y obvier. D'autre part, il n'est plus guère possible de leur résister avec les seules forces que la nature a données à chacun et que chacun n'a qu'à employer. Enfin, la science plus perfectionnée rend l'invention moins nécessaire et l'enseignement qu'on reçoit vient encore émousser la faculté que nous avons d'apprendre. Mais il est incontestable que quand la variété physique s'amoindrit, une variété morale et intellectuelle, plus riche et plus satisfaisante, vient prendre sa place. Des nuances, des différences, frappent notre esprit plus raffiné. Elles pénètrent notre caractère moins fortement accusé, mais plus délicatement cultivé, et influent sur la vie pratique. Si ces nuances eussent existé, sans doute l'Antiquité, ou du moins les penseurs de ce temps, ne les eussent pas laissés passer inaperçus. Il en a été du genre humain tout entier, comme de l'individu. Ce qu'il y avait de grossier a disparu. Ce qu'il y avait de délicat est resté. Sans doute cela serait heureux si le genre humain était un seul homme, ou si la force d'une époque, de même que ses livres et ses découvertes, passait aux âges suivants. Mais il n'en est pas ainsi. Il est vrai que notre raffinement a aussi son genre de force. Et c'est peut-être par la mesure de ce raffinement qu'elle surpasse la force de l'Antiquité. Mais reste à savoir si tout ne doit pas commencer par une civilisation primitive. Partout la sensibilité est le premier germe et la plus vive expression de toute idée. Ce n'est pas ici le lieu, ne fût-ce que de tenter cette recherche. De ce qui précède, il résulte toutefois sans doute que nous devons veiller soigneusement sur notre originalité, sur notre force, et surtout les moyens de les entretenir. Je considère donc comme acquis que la vraie raison ne peut souhaiter pour l'homme d'autre état que celui où non seulement chaque individu jouit de la plus entière liberté de se développer de lui-même et dans sa personnalité propre, mais encore où la nature ne reçoit des mains de l'homme d'autre forme que celle que lui donne chaque individu, lui-même et en suivant sa propre volonté, dans la mesure de ses besoins et de ses penchants, sous contrainte seulement des limites de sa force et de son droit. À mon sens, la raison ne doit s'éloigner de ce principe que dans la mesure où ceci serait nécessaire pour la conservation même du principe. Celui-ci doit toujours servir de base dans toute politique, et spécialement pour la solution de notre question. C'était étude de l'homme considéré comme individu, et des fins dernières les plus élevées de son existence. Fin du chapitre 2.